Après 10 jours de congés forcés, les bourses chinoises ont rouvert aujourd'hui. Fébriles, elles ont plongé de 8%. Preuve que les marchés s'inquiètent de l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. La Chine est aujourd'hui un pays quasiment à l'arrêt. Entre les mesures de confinement, les restrictions de déplacement et la peur de contracter la maladie, les rues sont quasi désertes. De grandes enseignes étrangères, comme Starbucks, McDonald's et Apple, ont décidé de fermer boutique.
À part les supermarchés, beaucoup de magasins ont tiré le rideau. Même les bars et les restaurants sont fermés.
Paralysée, la Chine est aujourd'hui coupée du monde. Plusieurs pays ont fermé leurs frontières ou ont suspendu les vols vers Pékin. Les États-Unis interdisent même l'entrée sur leur territoire de tout étranger ayant séjourné en Chine. Atelier du monde entier, marché gigantesque, la Chine tente de rassurer ses partenaires économiques.
Nous sommes pleinement capables de contrôler l'épidémie et de réduire au minimum son impact sur l'économie.
Le FMI s'inquiète pourtant d'un risque de crise économique mondiale.
Si les chaînes d'approvisionnement mondiales étaient systématiquement affectées ou si les marchés financiers mondiaux étaient considérablement touchés par une incertitude croissante, alors évidemment l'impact serait plus important.
Combien de temps encore les échanges commerciaux peuvent-ils durer avec une Chine de plus en plus isolée? La crise sanitaire provoquée par le coronavirus risque-t-elle de se transformer en crise économique mondiale?
Téléspectateurs donc qui voudraient savoir combien de semaines, pour ne pas dire de mois, va durer cette crise sanitaire. En l'occurrence, Eric Ayer, vous n'êtes pas épidémiologiste, vous n'avez pas de boule de cristal, mais sur le point de vue de l'économie, à partir de quand, c'est-à-dire la durée, pour qu'il y ait des conséquences sur l'économie, des conséquences lourdes?
Alors, on ne peut pas non plus donner une durée, mais on sait à peu près dire que...
quand est-ce qu'on passe un seuil?
Le timing et l'ampleur sera important, effectivement. Si ça dure trop longtemps avec une ampleur, avec une contagion, là, ça peut être une énorme crise. Mais vous voyez, en économie, on aime bien se référer au passé pour essayer de comprendre l'avenir. Et donc, on a un peu le SRAS en tête.
En 2003?
En 2003. Alors, il va falloir après le moderniser, parce que le poids de la Chine n'est pas exactement le même, la consommation n'est pas la même, etc. Mais on s'est bien rendu compte que tout de même, quand c'était relativement bien circonscrit et que ça durait à peu près un mois et demi, on voit que ça a vraiment fortement chuté sur un trimestre et que ça avait quasiment rebondi le semestre suivant. Donc effectivement, quand c'est uniquement bien circonscrit, on arrive, en gros, les économies aujourd'hui, même si elles sont interdépendantes, peuvent subir des chocs transitoires, et ces chocs transitoires ne remettent pas complètement...
Mais c'était en 2003, on est en 2020, et le poids de la Chine n'était pas le même, et c'est votre chiffre.
Un chiffre, Lilus, c'est le chiffre du jour, 19,25%, c'est ce que pèse la Chine dans le PIB mondial en 2019. Au moment du SRAS, donc en 2003, la Chine pesait dans le PIB mondial 8,7%, donc on est à plus du double et on est à un cinquième du PIB mondial. Jean-Paul Chang, avec une telle importance de la Chine dans l'économie mondiale, est-ce qu'un dérèglement de ce pays pourrait entraîner un dérèglement de toute l'économie de la planète?
Ah oui, bien sûr, s'il y avait un dérèglement. Mais comme disait mon voisin tout à l'heure, tout dépend de la virulence, si j'ose dire, de la pandémie. Si effectivement ça s'arrête d'ici peu, parce que de quoi on parle? Jusqu'à maintenant, même sans être un spécialiste de la santé publique, on parle de 361 morts, de 17 000 personnes identifiées, 361 morts, avec un mort seulement à l'étranger, aux Philippines, qui est un Chinois d'ailleurs, qui venait de la Chine, et c'est 350 dans la seule province du Hubei. C'est-à-dire, dans tout le reste de la Chine, c'est 10 morts.
Mais Jean-Paul Chang, on parle quand même de frontières fermées, d'un pays très isolé, de politique de précaution, de confinement incroyable à l'échelle du pays.
Nous sommes d'accord. Ça pèse effectivement sur l'activité en Chine même. Donc ça dure depuis à peu près 15 jours pour le moment, depuis qu'ils ont déclenché la quarantaine dans le Hubei. Et le phénomène se réplique aujourd'hui dans les grandes villes, à Shanghai, à Pékin, tout le monde prend des précautions. Et il est clair que l'économie va s'arrêter un peu. En tout cas, la consommation prend un coup. Normalement, il doit y avoir quelque chose, on estime, à 140 milliards de dollars de consommation pendant la période de Nouvel An. Eh bien, ce sera donc un trou, si j'ose dire, dans l'économie pour le moment.
Stéphanie,
mais de là à ce que ça s'étend d'ailleurs, c'est autre chose.
Il y a la raison, il y a les chiffres, il y a l'émotion, puis il y a la communication. Et il y a une espèce de loi du soupçon qui s'est installée vis-à-vis de ce que la Chine communique sur cette épidémie. Comment peut-elle rassurer le monde ? alors qu'on voit aujourd'hui, pays après pays, bloquer les liaisons, notamment avec la Chine. Alors,
plusieurs choses. D'une part, je crois que c'est important aussi de voir la représentation côté chinois. Est-ce que les médias chinois jusqu'à présent, communiquant à travers le Weibo chinois,
qui est l'équivalent Twitter
chez nous, en fait, indiquait qu'il pensait que la crise allait durer jusqu'à la fin du mois de mars. L'objectif, c'était fin mars pour que tout le monde retrouve les usines et les écoles début avril. Ça, c'était avant le week-end dernier. Ce week-end a été quand même assez redoutable sur le plan de la santé publique. Et en fait, maintenant, il n'y a plus de prévisions, premièrement. Deuxièmement, et vous avez vu, vous avez montré une carte, la ville de Wuhan dans la province du Hubei, c'est au cœur, un épicentre, en fait, dans un carré situé entre Tianjin, entre Shanghai, entre Hong Kong et Chongqing. C'est aussi le cœur de la nouvelle route de la soie. C'est un hub technologique considérable. Il y a 7 zones économiques spéciales dans cette ville-là. Donc c'est un poumon, absolument crucial. Donc en termes d'économie pour la Chine, ça va être radical. Après, sur la question de la communication du gouvernement chinois.
Et de la confiance.
Alors, la question de la confiance dans un régime... Dans les régimes, dans les démocraties occidentales se posent, dans les régimes autoritaires avec une des médias qui sont absolument contrôlés, c'est-à-dire que le gouvernement chinois contrôle avec la sécurité publique l'ensemble des médias, télévision, réseaux sociaux, etc. Et puis, il y a le phénomène du SARS. C'est-à-dire le SARS a été un moment... a été un moment en fait de rupture de confiance fondamentale entre la population chinoise et son gouvernement. En même temps, il y a eu une courbe d'apprentissage de la part du gouvernement qui essaye aujourd'hui de ne pas répéter ce qui s'est passé.
Ils ont communiqué bien plus tôt qu'en 2003 sur l'existence du virus.
Et le président Xi Jinping qui jamais ne s'explique dans les médias en indiquant les choses très clairement, puisque les médias le font pour lui, là, a très clairement dit que c'était une question qu'il gérait en direct. D'accord ? Alors, en fait, les médias chinois sont face à une contrainte très forte, qui est que les lanceurs d'alerte, lorsqu'ils existent, ils sont emprisonnés. Donc, ce contrôle absolu des médias chinois est en fait une force pour montrer qu'ils maîtrisent et une grande faiblesse, puisque les citoyens ne peuvent pas...
Entretient le soupçon. Eric, hier, si on reprend ces dates de fin mars, début avril, et puis si même on les pousse d'un mois de plus... Ouais. Est-ce qu'à partir de là, on peut considérer que les conséquences économiques vont être quand même très importantes sur 3-4 mois ?
Ça sera au contraire plutôt assez marginal. Enfin, ça peut avoir des conséquences à très court terme, alors après, on voit bien que ça sera assez important pour des pays relativement émergents, proches d'eux, et un peu moins important pour des pays développés. Ça aura des conséquences, mais pas complètement insurmontables. Et puis même, ça peut avoir des conséquences sur les prix des matières premières, quelque part. Et donc, un prix du baril un peu plus faible. Certains
pays de pétrole.
Un peu plus faible. Donc, pour certains pays développés, ça sera même plutôt compensé aussi par ces mécanismes-là. Donc, mais qu'il y ait une chute. Même de la croissance mondiale. Oui, vous voyez, aujourd'hui, les prévisions, c'était à peu près 3% de croissance mondiale. Que l'on passe aux alentours de 2,7, 2,8, pourquoi pas. Mais vous voyez, ce n'est pas non plus un cataclysme.
Jean-Paul Jean, on vous sent bouillir.
Allô, oui.
Alors ça va,
D'abord.
Sur la confiance, non ?
Sur la confiance, oui. C'est-à-dire qu'en fait,
Par rapport au gouvernement chinois et à sa communication.
Bah écoutez, je vois pas. Politique de la crise. Je veux dire, moi, j'ai une attitude depuis le début de cette affaire. C'est de dire que je ne juge pas politiquement pour le moment, parce que pour le moment, c'est compassion et solidarité. Il me semble que c'est l'attitude minimale qu'on doit avoir. Que bilan et critique, ça viendra en temps voulu. Voilà. En ce moment, tout le monde est sur le pont, y compris le gouvernement chinois. Je ne vais pas faire comme monsieur...
C'est redoutable en termes de gouvernance et de gouvernabilité, quand même.
Alors, on va évoquer les conséquences pour nous, les Français.
Oui, les impacts de cette crise, effectivement, sur la France. En tout cas, dans certains secteurs, ça a peut-être déjà commencé. On pense d'abord, évidemment, au tourisme. Alors, on est en basse saison. Janvier-février, c'est la basse saison, donc la situation n'est pas très alarmante. Mais on a tous, encore une fois, les chiffres de 2003 et du SRAS, quand l'épidémie avait fait fondre d'un tiers le nombre de touristes chinois. Et on a des premières prévisions assez inquiétantes en ce qui concerne le trafic aérien depuis la Chine vers Paris pour le mois de février, ça affiche déjà une baisse de 40% par rapport à 2019. Quand on sait que plus de 2 millions de Chinois visitent chaque année la France, on peut mesurer l'impact. D'autant que si les Chinois ne représentent que 2,5% de la fréquentation touristique totale, c'est assez peu. Ils constituent, et ça on le sait, on le voit, une clientèle de poids. Rien que dans les aéroports, par exemple, français, le client chinois va dépenser dépensé plus de 115 euros dans les boutiques de Roissy, contre un peu moins de 18 euros en moyenne pour les autres passagers. L'écart est important. Ils ouvrent également leur porte-monnaie dans les villes, dans les grandes enseignes françaises. Par exemple, la clientèle chinoise, c'est 25% de la clientèle des galeries Lafayette. Et on pense évidemment tout de suite également au luxe qui est en première ligne. Ça représente, la Chine représente un tiers de la demande mondiale et ça commence déjà à inquiéter un peu les marchés financiers. LVMH, Kering, qui est la maison mère de Gucci, ou encore Hermès ont vu la semaine dernière leur titre chuter en bourse et la semaine dernière toujours. Bernard Arnault, pardon, lors de la présentation de ses résultats, a manifesté son inquiétude avec ces mots. Si ça dure deux mois et demi, ce ne sera pas terrible. Si ça dure deux ans, ça va vraiment être une autre histoire. Éric Ayer, on est encore une fois beaucoup dans le conditionnel et dans le futur. Mais est-ce qu'il y a un risque, si ça dure, d'effet domino qui n'épargnerait pas la France, précisément sur cette question du tourisme et du luxe?
Non, mais bien entendu. Mais déjà, il peut y avoir un peu, comme quand on essaie d'évaluer les grèves, l'impact des grèves, peu d'incidences macroéconomiques, mais des incidences micro sur certains secteurs, le luxe, le transport, enfin, on les connaît. Donc effectivement, il faut quand même dissocier le microéconomie et la macroéconomie. Ouais, bien entendu, si la contagion n'est pas justement circonscrite à la Chine, si ça commence à attaquer l'Inde et si on commence à attaquer l'intégralité, là on est dans une crise mondiale.
Pourquoi l'Inde en particulier?
Parce que l'Inde, on comprend bien que c'est un grand pays aussi et c'est pas du tout les mêmes technologies qu'en Chine et c'est pas du tout les conditions sanitaires qui sont identiques. Donc là, la propagation, elle va être beaucoup plus importante. Et là, il y aura effectivement un phénomène boule de neige. Et là, ça peut être une grande crise mondiale.
Jean-Paul Chin ?
Oui, je pense que le risque réel, si vous voulez, c'est dans une crise de ce genre, avec l'activité économique à l'arrêt, comme disait Stéphanie tout à l'heure, une crise, ça révèle toujours les faiblesses et la force aussi d'une société. S'il se trouve que le système économique chinois ou financier chinois renferme des faiblesses systémiques, par exemple, un manque de liquidité et qui provoque immédiatement une crise de la dette. Alors là, dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir des conséquences. Or, les Chinois ont réagi, comme le gouvernement chinois, on peut parler de la gouvernance comme on veut, mais ils ont quand même pris une mesure très rapidement. Ils injectent 170 milliards de dollars dans le système de liquidité, dans le système financier et bancaire, depuis hier. Donc c'est aussi pour faire face à ce manque à gagner éventuellement des activités de consommation pendant les fêtes de Nouvel An chinois. Donc il y a des gens qui réagissent, qui prennent des mesures de soutien à l'économie. Donc c'est plutôt des éléments pour moi rassurants. Voilà.
Je pense qu'il y a un élément aussi important qui est que les Wuhan, c'est un centre très important pour les institutions françaises, pour les entreprises françaises.
L'épicentre géographique.
L'épicentre géographique des entreprises françaises, notamment l'automobile, pas que, mais notamment, et aussi le high-tech. Peugeot, bien sûr, mais aussi le high-tech.
Et donc
aussi, donc ça a aussi une conséquence. Donc il y a la question du tourisme, certes, qui est importante. C'est vrai que pour le secteur du luxe, ils ont quand même vécu le traumatisme hongkongais du semestre dernier qui était quand même problématique. Il y a donc les entreprises françaises sur place qui vont être quand même très 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 affectées. Et de façon durable aussi, les talents, c'est-à-dire les talents, ces fameux talents pour nourrir le projet Made in China 2025 qui cherchait à attirer en fait des scientifiques durablement ainsi que des universitaires et des étudiants. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui ne peuvent pas étudier en Chine et énormément se situent à Wuhan, notamment sur le monde de l'high-tech.
Éric Ayer, derrière ces propos cyniques, est-ce qu'il faut comprendre que, au-delà de la situation sanitaire, la guerre commerciale continue entre l'Amérique et la Chine?
Ça, c'est certain. La guerre commerciale va continuer. On a fait l'acte 1, il y aura maintenant l'acte 2. Alors, ça sera sans doute après la réélection potentielle de Donald Trump. Ça va être quand même assez crucial. Est-ce que c'est Trump qui va être réélu? S'il est réélu, il nous a quand même annoncé un acte 2 qui sera sans doute un peu plus dur que l'acte 1. Mais on voit bien tout de même un petit point positif tout de même dans la coopération internationale, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue des scientifiques, on collabore énormément. C'est-à-dire que les Chinois ont séquencé le génome et là, ils l'ont donné à toute
la
communauté scientifique et tout le monde travaille. Donc on voit bien que dès qu'il y a un intérêt commun, quand même, il y a des coopérations qui se font, y compris avec la Chine.
Mais il y a quand même un coup porté à l'image de la Chine, Jean-Paul Chin, qui apparaissait comme une puissance un peu indestructible et sans faille et qui se retrouve en proie à...
Moi, je trouve qu'il y a une certaine continuité qui explose. Personnellement, je vois depuis 2 ou 3 ans le langage sur la Chine devenir très hostile. De toute façon, la Chine est dépeinte notamment par les Américains comme l'origine de China égale Chinese Communist Party égale evil, donc vraiment le mal. Tout ce qui vient de Chine, de toute façon, est déjà suspicieux et menaçant. Alors si en plus, on a quelque chose d'irrationnel,